L'œuf et la poule, Olivier Horry. Bonjour et bienvenue dans l'œuf et la poule. C'est la conversation philosophique pour ce mois-ci, encore une fois, avec Odile Autré, qui est mon interlocutrice. Et ce mois-ci, nous avons choisi de parler de l'agriculture parce que nous étions un peu frustrés le mois dernier d'avoir assez longuement parlé du travail sans même évoquer ce premier travail tout à fait fondamental qui est celui des agriculteurs et des éleveurs.
Bonjour Olivier.
Alors, bonjour.
L'agriculture, bon, un petit peu avant l'agriculture, on avait la période des cueillettes, des chasseurs-cueilleurs. C'était une organisation tout à fait différente. Est-ce que c'était même une organisation? Et justement, à quel moment on retrouve le travail en tant qu'on le conçoit plus ou moins aujourd'hui, et qu'est-ce qui le différencie?
Oui, alors il y a effectivement une dichotomie assez habituelle qui correspond au paléolithique, à la dichotomie entre le paléolithique et le néolithique. Je rappelle d'ailleurs que ces deux périodes doivent leur nom à des techniques de taille de la pierre. Paléolithique, c'est la pierre taillée, néolithique, c'est la pierre polie. En fait, beaucoup plus sérieusement, c'est effectivement souvent la distinction entre les cueilleurs-chasseurs du paléolithique et les sociétés dites primitives, et puis les agriculteurs et les éleveurs néolithiques. Donc la période, le commencement du néolithique, c'est très variable au niveau chronologique d'une région du monde à l'autre. Peu importe. Alors effectivement, on a l'impression que ce sont deux modes d'organisation politique complètement différents, et ça l'est dans une large mesure, effectivement. Toutefois, j'ai moi l'habitude souvent de rapprocher l'homme chasseur-cueilleur de l'homme agriculteur-éleveur, parce qu'on a l'impression que les mêmes catégories cognitives sont en jeu. Il faut reconnaître les espèces utiles, il faut observer comment au cours de l'année ou au cours de la vie ces espèces vivent, en quoi elles peuvent nous être profitables, dans quels endroits elles évoluent, et que ce soit donc les espèces végétales ou les espèces animales qu'on les cueille ou qu'on les cultive, qu'on les chasse ou qu'on les élève. Toutefois, bon, la différence, elle existe, à n'en pas douter, elle est archéologiquement manifeste, et elle est manifeste de par les différences d'organisation politique, effectivement. Alors, à quoi attribuer cette évolution? Je pense qu'il est possible de l'attribuer à l'évolution de la démographie, c'est-à-dire que sur les zones facilement habitables, la densité de population vraisemblablement a dû s'accroître, qu'il a fallu, pour reprendre vos termes, effectivement, organiser, anticiper beaucoup plus, ce qui a fait privilégier l'agriculture sur la cueillette, pour prendre cet exemple. Je pense d'ailleurs que le passage s'est fait de manière graduée, parce que quiconque s'est adonné à des cueillettes, c'est bien que on applique déjà des catégories, je l'ai dit, mais même des actes. On a déjà des actes presque d'agriculteur, parce qu'on va délimiter la zone où on a les cueillettes les plus favorables, on va favoriser la pousse des espèces qui nous intéressent. Donc une évolution graduelle de la cueillette à l'agriculture, à peu près partout sur la planète d'ailleurs.
Oui, on ne peut pas trop savoir ce qui a précédé l'autre, mais enfin, avec l'agriculture, il est lié le stockage. Ça fait partie de l'agriculture, ne serait-ce que pour garder les semences pour l'année qui vient. Et puis, ça a probablement donné une meilleure alimentation, mais ça a donné aussi des obligations, c'est probablement un travail collectif pour les constructions. Et ensuite, à partir du moment où il y a un stockage, ça peut être possiblement un moyen de pouvoir, un moyen de pression, mais aussi un système de travail collectif, donc une amélioration de la cohésion peut-être, des habitants.
Oui. Effectivement, on parlait d'organisation plus forte, plus serrée. Je pense qu'il y a un autre mot qui a été lâché, là, qui est celui d'anticipation, la nécessité d'anticiper de plus en plus, non seulement la succession des saisons, mais aussi anticiper des mauvaises récoltes, des épidémies, des événements catastrophiques. Et effectivement, le stockage paraît être une des premières conduites d'anticipation. Et alors effectivement, cette simple anticipation par le stockage, elle induit pas mal de choses au niveau de l'organisation. Je dirais que effectivement, ça va vraisemblablement amener à augmenter la division du travail et à multiplier les spécialités dans lesquelles on peut se mettre au sein d'une société. Ça va complexifier la société. Je pense que un autre aspect lié à l'anticipation et au stockage, c'est la constitution, elle est assez manifeste avec le stockage, hein, la constitution de ce qu'on pourrait appeler un capital. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir distinction, et donc là, cette distinction, comme la division du travail, hein, vont augmenter en nombre, il va quand même y avoir distinction entre ceux qui sont capables de stocker ceux qui ne le sont pas, ceux qui en ont les moyens, ceux qui ne les ont pas. À partir du moment où donc cette distinction se fait, il y a bien entendu une différence qui va s'accroître entre les possédants et les non-possédants, ce qui en soi déjà augmente le pouvoir de ceux qui ont ce capital sous forme, entre autres, de stockage et puis de moyens de stockage surtout. Il y a un autre aspect lié au stockage qui m'apparaît assez évident, qui est la possibilité qu'offre le stockage de spéculer sur les biens. C'est-à-dire non seulement vous avez la dimension de capital qui se met en place de manière beaucoup plus évidente que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, évidemment, hein, la notion de capital et même de capital spéculatif, parce que évidemment, à partir du moment où on a du stock, on peut jouer sur les cours. Et finalement, il va se passer avec le stockage la même chose qui s'est passé avec la monnaie. C'est-à-dire, pour échanger l'existence d'une monnaie, est évidemment, est extrêmement pratique, mais l'apparition de la monnaie, eh bien, c'est l'apparition aussi de la spéculation sur des monnaies qui n'ont qu'une valeur fiduciaire, justement. Et là, de la même manière, l'apparition avec le stockage d'une possibilité de spéculer sur un certain nombre de biens. On va peut-être se poser quelques minutes à ce niveau-là de l'émission.
Vous avez reconnu Ray Cooder, c'est la bande originale de Paris, Texas.
RCF, l'œuf et la poule, Olivier Horry.
C'est la conversation philosophique qui se continue, qui se poursuit sur le thème ce mois-ci de l'agriculture. Nous avons commencé par distinguer si c'est utile la cueillette de l'agriculture. Nous avons vu comment l'agriculture correspondait un petit peu quand même à l'anticipation par le stockage, un petit peu sur le modèle de l'anticipation des échanges avec la monnaie, et comment ces aspects-là nous faisaient penser inévitablement au capital et à la spéculation.
Il semblerait que c'est à ce moment-là on peut rencontrer une fonction, tout au moins des personnes qui vont finalement accumuler des richesses en monnaie ou en capital, en céréales, en provisions quelconques, sans les avoir élaborées même, c'est-à-dire sans avoir travaillé physiquement à leur création. Donc ça nous fait une nouvelle fonction dans la société.
Oui. Et puis derrière cette apparition d'une fonction essentiellement de domination, il me semble qu'apparaît une problématique un petit peu assez courante en sciences politiques. Je m'explique. On voit donc d'une certaine manière une nouvelle fonction va apparaître. Il faut l'étendre déjà, parce que l'agriculture, c'est pas seulement l'alimentation, qui est déjà évidemment essentielle, mais l'agriculture, ce sont aussi les plantes techniques, c'est-à-dire c'est le bois, ce sont les textiles, donc c'est énormément de métiers, énormément donc de capitaux et de fonctions nouvelles. Et puis, je crois que ça serait dommage de passer sous silence la dimension aussi phytothérapie. C'est-à-dire que les cueilleurs sont souvent aussi des pharmaciens et des médecins. Et donc les agriculteurs font aussi des plantes, cultivent aussi des plantes en vue de leur utilisation médicinale. Et puis ensuite, ça, évidemment, ce sont les laboratoires qui prennent la suite, etc. Donc on voit que c'est pas seulement l'agriculture, l'alimentation, c'est tout un secteur primaire et tous ses descendants nécessaires. Et alors, effectivement, on le voit, hein, apparaît une sorte ou quelque chose qui s'apparente quand même à une classe dans la population de gens qui possèdent et qui inévitablement vont être appelés à diriger. Et on voit comment se constitue progressivement un pouvoir qui va pouvoir évidemment qui se convertit d'une manière ou d'une autre en pouvoir politique, c'est-à-dire en pouvoir de direction de la société tout entière. Hein, on le voit bien. Et je pense, ça en sciences politiques et même en philosophie politique, il est assez courant de se questionner sur les origines du pouvoir politique, sur sa légitimité ou non. Bon, effectivement. Mais il m'est apparu, en réfléchissant à cette question de l'agriculture, il m'est apparu qu'en miroir de ce questionnement sur l'apparition du pouvoir, il pouvait se mener toute une série de réflexions sur, encore une fois, en miroir, en parallèle, du même fait, quoi, de l'apparition et la légitimation, bien sûr, au sens philosophique, de la servitude. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où se constitue un pouvoir par la constitution d'un capital et puis d'un pouvoir politique, se constitue une servitude, et comme par hasard,
cette servitude, elle va concerner qui ? Eh bien, elle va concerner en priorité les gens qui sont attachés à la terre, à laquelle ils vont, de laquelle ils vont devoir tirer non seulement l'alimentation de tout le reste de la société, mais aussi toute une série de matières et de molécules hein, qui vont elles aussi servir à l'ensemble de la société. Mais je crois que cette société qui ainsi est nourrie, et pas seulement nourrie par la classe des gens qui travaillent la terre, ne s'en aperçoit pas nécessairement. On s'en aperçoit pas nécessairement. C'est-à-dire il peut y avoir... On a l'impression que cette classe qui travaille la terre, elle peut rester un petit peu comme dans un angle mort de la réflexion politique. Et enfin, en tout cas, ça m'est apparu comme une espèce de non-dit et d'étrangeté dans la réflexion politique générale.
C'est probablement dû au fait que le métier d'agriculteur, de paysan, d'agriculteur, il demande énormément de temps, énormément de présence. Bon, encore maintenant, on peut dire qu'il y a énormément d'aides techniques qui peuvent soulager. Mais pendant très longtemps, un agriculteur pouvait difficilement se dégager du temps pour être disponible pour un travail collectif sur l'organisation de la société. À cause de la distance, à cause jusqu'à la sortie entre les deux guerres. Et peu d'agriculteurs qui allaient à l'école, ils allaient à l'école jusqu'à 12, 13 ans, 14 ans dans le meilleur des cas. Donc ils pouvaient difficilement, pour tout un tas de raisons, être présents dans les décisions. Ce qui fait que le vide n'est pas resté longtemps. Hein, c'est des postes qui ont été occupés, alors légitimement ou non, mais qui ont été occupés par d'autres professions, qui maîtrisaient probablement mieux la communication déjà. Et les répartitions des tâches ne sont pas faites... été faites vraiment au détriment, mais enfin, elles n'ont pas amélioré l'agriculture pendant très longtemps.
Ouais.
Les femmes... étaient beaucoup trop occupées, elles aussi, parce qu'elles travaillaient autant que les hommes. Pas forcément dans les mêmes directions, mais elles travaillaient autant que les hommes physiquement. Les hommes étaient assez souvent... ils allaient au service militaire, ils faisaient la guerre quand il y avait besoin. Ça, le résultat sur la démographie n'avait pas l'air d'inquiéter grand monde. C'est une population qui a beaucoup donné, au final. Et donné que vendu, effectivement.
Oui, complètement. Là, c'est assez curieux parce que je vous entends et j'ai l'impression que, tout en parlant de l'agriculture, de la paysannerie et des conditions de travail des paysans, vous me faites peut-être un peu involontairement, je ne sais pas, comme la description d'une aliénation. D'une aliénation de toute une catégorie. Alors, aliénée à la terre d'un côté et aliénée à la société qui est nourri de l'autre côté. Et je trouve qu'il y a deux éléments assez significatifs dans cette description de l'aliénation. D'abord, la notion de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'aliéner un homme que de lui prendre ou de mal lui rémunérer, les deux, son temps. Parce que le temps, c'est effectivement cette chose qui ne se rattrape pas et qui est donné définitivement. Puis l'autre aspect, c'est l'accès à la formation, l'accès à la culture, qui n'a pas été facilité pour les personnes qui, justement, exploitaient la terre. Et alors, pour poursuivre votre description de l'aliénation, comment vous arrivez à montrer que la femme est dans une situation d'assujettissement encore plus grand que l'homme qui a servi à la terre est déjà dans une situation d'assujettissement passablement problématique. En termes d'analyse contemporaine, ça me fait penser aujourd'hui à la difficulté qu'ont, je dis bien encore aujourd'hui, hein, à la difficulté qu'ont la plus grande partie des agriculteurs à se faire connaître, à se faire reconnaître, et puis tout simplement à évaluer leur temps de travail. Parce qu'on entend beaucoup d'évaluations sur les cours des produits de l'agriculture, on n'entend guère parler de la rémunération des agriculteurs en salaire horaire, ce qui serait une manière de rapprocher leur statut de celui
du monde ouvrier, du monde de la fonction publique, par exemple. Donc ça me paraît intéressant et terriblement d'actualité, cette notion d'aliénation.
Oui, alors rapprocher le revenu des agriculteurs d'un taux horaire ou d'un calcul des horaires de travail, c'est très compliqué parce que l'agriculteur il vit et il travaille en même temps. Donc pour faire une différence formelle entre les deux, elle ne serait pas uniforme ni au long de la journée ni au long de l'année en fonction des cultures. Un changement de culture, ça automatiquement, c'est un changement de nombre d'heures travaillées. Est-ce qu'on compte les heures de réunion? Est-ce qu'on compte les heures de formation? Est-ce qu'on compte les heures administratives en train de remplir des déclarations fumeuses? Enfin bon, c'est très difficile. C'est très difficile. D'ailleurs, je pense que les consommateurs seraient très très malheureux si on vendait au prix de l'heure de travail. Et comment fixe-t-on le niveau de formation ou le niveau de qualification de l'agriculteur qui lui donnerait droit à une rémunération plus élevée? Je ne sais pas si c'est possible. Par contre, ça ferait prendre conscience aux enfants gâtés qu'on est un petit peu maintenant que tout n'est pas facile dans l'agriculture. Il ne suffit pas de semer pour que ça pousse.
Oui, je crois qu'effectivement, donc y a, on le voit d'après ce que vous dites, littéralement possibilité d'ouvrir un véritable champ d'investigation, mais pour mettre dans la lumière la question du travail agricole. Last Day, c'est la conversation philosophique sur RCF, l'œuf et la poule.
RCF, Olivier Horry.
Conversation philosophique qui se poursuit et va se terminer sur l'agriculture. Nous en étions arrivés au difficile calcul du travail agricole.
L'agriculteur conventionnel tel qu'on le connaît, qu'il soit bio ou pas, qu'il soit local ou pas, cette agriculture classique, on va dire, elle est difficile à normer. D'où aussi la difficulté de faire des calculs d'horaire de travail. Ça doit pouvoir se faire, mais j'ai bien peur que ça n'aide pas les acheteurs. Par contre, y a quand même un sujet maintenant qui devient vraiment pressant, c'est l'environnement. On reproche aux agriculteurs de dégrader l'environnement, ce qui est, bon, je donnerai pas mon avis sur le sujet. Par contre, ils ont un impact sur l'environnement, ça c'est indéniable, sur l'eau aussi. On devrait aussi essayer de voir en quoi ils sont utiles à l'environnement. Et puis, oui, évaluer un peu cet impact des deux côtés de la frontière, je dirais, mais le côté indispensable, il semble qu'il y ait quand même besoin d'une agriculture, quelle qu'en soit la forme.
Bien sûr, et je crois que les agriculteurs, non pas sont le symbole d'eux, mais sont en réalité, avec les éleveurs, le lien le plus solide, le plus fort que la société tout entière entretient avec la nature. Parce que on peut, les secteurs secondaires et tertiaires, on peut accélérer les rythmes tant qu'on veut. On retrouve cette question du temps. Le temps de la nature, lui, il est ce qu'il est. Les saisons sont ce qu'elles sont. Le temps de développement, de croissance d'une plante, il est ce qu'il est. Le travail agricole est donc un travail qui, de toute nécessité, et malgré les techniques, les produits, le travail agricole est un travail qui nous met en lien inévitablement avec la nature. Et au lieu d'en faire de ce lien une aliénation et une difficulté pure, on devrait plutôt en tirer profit et comprendre que le travail agricole, bon, déjà si difficile à évaluer et à normer, comme vous le disiez, ce travail agricole, il n'est pas seulement un travail de production, mais il est aussi un travail de vie dans l'environnement et de vie avec le reste de la société. Et donc, effectivement, on devrait... L'entretien du paysage, la solidarité avec l'environnement et toutes les dimensions de la société est peut-être ce qui devrait être finalement le vrai chantier pour la considération de l'agriculture au sens le plus large dans un avenir proche. On pourrait peut-être même commencer tout de suite à réfléchir à tout ce que comporte réellement pour la société le travail agricole. Voilà, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Comme d'habitude, nous avons entendu de la musique qui nous a été choisie par l'ange musical de l'œuf et la poule. C'était Raikouder, la BO, la bande originale de Paris, Texas, ce très beau film de Wim Wenders. Et puis c'était Dom Lalena, Last Day, de l'album Léon, paru en 2023 chez Sabia. Merci à Odile Autré pour sa conversation avec moi et merci beaucoup, infiniment, à Vincent Guigon qui réalise tout ça. Ciao, ciao.